Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par la politique en Afrique du Sud. Le chef démissionnaire de l'opposition sud-africaine, Mumusi Maimane, a annoncé ce jeudi qu'il renonçait également à son siège de député et qu'il quittait son parti, l'Alliance démocratique, déchiré par un débat sur la question raciale. Premier leader noir de l'histoire de l'Alliance démocratique depuis 2015, M. Maimane a lancé mercredi un pavé dans la mare en renonçant à ses fonctions de chef du parti. Devant la presse, le dirigeant démissionnaire a expliqué sa décision d'abandonner le parti en mentionnant ce qu'il a appelé les attaques coordonnées d'une frange de cette formation politique, encore largement considérée comme un parti de blancs, qui s'opposait à sa politique d'ouverture en faveur de la majorité noire du pays. L'Alliance démocratique a été fondée en l'an 2000 par la fusion de trois partis issus de la minorité blanche sud-africaine. Et puis au Botswana voisin, la population attend avec impatience les résultats des élections générales très disputées de la veille qui pourraient mettre fin au règne sans partage du parti BDP au pouvoir depuis l'indépendance du pays il y a plus d'un demi-siècle. Le gouvernement a commencé aujourd'hui à publier les premiers chiffres sur son compte Twitter, circonscription par circonscription, et les résultats définitifs sont attendus demain. Plus de détails sur l'enjeu des élections avec Yakuba Ouedraogo.
Plus de 930 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Le dépouillement a commencé hier, dès la fermeture de quelques 2 200 bureaux de vote. Certains électeurs ont continué de faire la queue dans la soirée pour pouvoir voter. Selon le porte-parole de la commission électorale, Ozupile Maroba, cela pourrait entraîner des retards dans le comptage des voix. Ce pays d'Afrique australe est agité par une guerre facticide entre l'actuel chef de l'État et son prédécesseur, Ian Kama, qui a dirigé le pays de 2008 à 2018, accuse son successeur, Mogwetsi Masisi, de dérive autoritaire. Kama a quitté le Parti démocratique du Botswana, qui dirige le pays depuis son indépendance en 1966. Kama a appelé à voter pour l'opposition et cette fronde fragilise la position du parti au pouvoir, qui avait réalisé son plus mauvais score aux élections de 2014, en tombant sous la barre des 50% des voix.
Afrique australe toujours, élection au Mozambique. C'est à la fin du mois que seront annoncés les résultats complets des élections générales du 15 octobre, selon la Commission électorale nationale. Le point avec Irénée Hermann Umbo.
Paolo Quinica, porte-parole de la Commission électorale nationale, a annoncé que les résultats seront publiés le 30 de ce mois. Après le vote du 15 octobre, pour élire le président, les députés et les assemblées provinciales, des missions d'observateurs ont dénoncé de nombreuses irrégularités. L'Arenamo, principal parti d'opposition, accuse le régime de méga-fraude et rejette d'avance les résultats. La Commission électorale a publié sur son site des résultats partiels. Philippe Nyusi serait réélu avec à plus de 70% des voix, loin devant son rival Ossoufou Momad, crédité autour de 21%. Le Frelimo décrochait 179 sur les 250 sièges du Parlement, contre 62 à la Renamo et 8 au Mouvement démocratique du Mozambique. Le gouvernement et la Renamo ex-rébellion ont signé en août un accord de paix censé mettre fin à leurs affrontements récurrents depuis plus de 40 ans. La campagne électorale a ravivé les tensions entre les deux camps.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Niger, toujours pas de nouvelles du maire de Kabalewa, une commune de la région de Difa dans le sud-est du pays, et de son épouse, kidnappée le 19 octobre par le groupe extrémiste Boko Haram. Les précisions avec Eric Manirakiza.
Selon un élu local qui a voulu garder l'anonymat, le maire Abari El Hadj Daouda et son épouse ont été enlevés dans la nuit du 19 octobre par des éléments de Boko Haram qui ont fait irruption dans leur domicile. Le gouvernorat de Difa a confirmé ces enlèvements et a souligné que les ravisseurs sont des présumés membres de Boko Haram. La région de Difa, proche du Nigeria, est le théâtre depuis 2015 d'attaques meurtrières du groupe djihadiste Boko Haram. Selon les chiffres officiels, il y a eu entre janvier et août cette année 173 attaques qui ont fait 202 morts, 60 blessés et 239 personnes enlevées. En juillet 2017, 39 personnes, dont 33 femmes et 6 garçons, ont été enlevées en Galewa, un village situé à quelques kilomètres de la commune d'Okabalewa. En plus de l'insécurité, Diffa est confronté à de graves inondations provoquées par une crue de la rivière Komadougou-Yobé qui sert de frontière avec le Nigeria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bras de fer entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur le partage des eaux du Nil. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président égyptien Abdel Fattah Sisi ont discuté aujourd'hui en marge du sommet Russie-Afrique à Sochi sur la mer Noire de leur conflit autour d'un projet de barrage sur le Nil. La rencontre a duré 45 minutes et s'est déroulée dans une atmosphère positive. Abiy Ahmed a remis un message à Abdel Fattah Sisi au sujet du barrage. Le Caire craint que la construction du grand barrage de la Renaissance, un projet de 4 milliards de dollars entamé en 2012 par l'Éthiopie, n'entraîne une réduction du débit du Nil, dont l'Égypte dépend 90% pour son approvisionnement en eau. Les discussions entre les deux pays et aussi avec le Soudan, ou par lequel passe aussi le fleuve Nil, n'ont pas accompli de grands progrès en 9 ans de pourparlers. Sommet Russie-Afrique à Sochi, le président russe Vladimir Poutine a lancé mercredi son premier grand sommet Russie-Afrique en promettant à des dizaines de dirigeants africains de doubler dans les 5 ans les échanges commerciaux entre la Russie et leur pays. Pour analyse, Eric Maniakiza a joint à Dakar le président de l'Amicale des diplômés de l'ex-URSS au Sénégal, Mustapha Ndiaye.
Je dirais que c'est un sommet qui est arrivé très tard, mais qui vient à son heure parce qu'aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un tournant par rapport à son développement économique, à certaines nouvelles orientations. Donc, je pense que la coopération entre la Russie et l'Afrique, c'est quelque chose de très important. Et ce que je voudrais souligner, c'est que la Russie n'a jamais participé à la colonisation. La Russie n'a jamais participé à l'esclavage directement. Donc, ce qui fait que les relations sont beaucoup plus simples à mener. Il n'y a pas cette relation de condescendance que nos anciens colonisateurs ont par rapport à nous. Donc voilà pourquoi cette relation-là va être beaucoup plus équilibrée. Il y aura un échange beaucoup plus dynamique entre les deux parties que juste une partie qui impose à l'autre ce qu'il faut faire.
On sait que l'Afrique achète beaucoup plus des armes en Russie. En termes d'échanges commerciaux, qu'est-ce que la Russie peut apporter que d'autres puissances déjà sur le continent n'ont pas encore donné?
Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique a plus besoin d'avoir de la technologie à sa disposition. Et ça, on peut l'avoir de la Russie. L'ex-Union soviétique, les anciens pays du bloc, ont formé beaucoup d'experts africains qui tous servent leur pays aujourd'hui. Aujourd'hui, en Afrique, la coopération avec l'Occident se particulise par rapport à l'aide au développement, qui n'est pas une aide en soi, parce qu'on nous impose des orientations, on nous fixe des trucs, alors qu'aujourd'hui, les Africains ont besoin d'avoir de la technologie à leur disposition. Et on peut avoir les plus grandes technologies à disposition à partir de la Russie. Ça, c'est un point important. Côté formation, c'est pareil. Les étudiants africains peuvent recevoir des formations de très haut niveau. Si je prends l'exemple du pétrole et du gaz aujourd'hui au Sénégal, il y a des opportunités de profiter de l'expérience russe dans ce secteur. Dans le secteur agricole, les pays africains peuvent exporter beaucoup vers la Russie parce que c'est un pays où, avec l'hiver, il y a un moment où on ne produit pas. Donc, les gens ont besoin de légumes, de fruits frais. Et ça, les Africains peuvent l'exporter. Donc, je pense que la coopération entre l'Afrique et la Fédération de Russie peut être quelque chose de très, très important. Il y aura quelque chose de très innovant dans la mesure où on n'a pas cette imposition, comme j'ai dit, de l'ancien colonisateur qui veut toujours imposer ses points de vue.
Faut-il se méfier de quelque chose dans cette relation?
Non, il n'y a absolument aucune crainte. Parce que comme je l'ai dit, quand aujourd'hui les gens déforment les idées en disant que oui, Vladimir Poutine a des idées expansionnistes, c'est pas du tout ça. Je pense que M. Poutine est arrivé à un moment où il fallait restaurer un peu la notoriété de la Russie, après Boris Yeltsin. Et je pense que les gens ne comprennent pas trop certaines idées qu'il veut véhiculer.
Mustapha Ndiaye, le président de l'Amicale des diplômés de l'ex-Union soviétique au Sénégal. Actualité américaine pour terminer, le président Donald Trump a levé mercredi les sanctions imposées à la Turquie pour son offensive militaire contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Et ce, alors que les forces russes effectuaient leur première patrouille dans la zone frontalière dont les États-Unis se sont retirés. Et Washington avait gelé les avoirs de trois ministres turcs après l'offensive d'Ankara contre les combattants kurdes, longtemps alliés aux Occidentaux dans la lutte contre le groupe djihadiste État islamique. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.